RCF.
Ah non, 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 je refoule rien du tout, je vais très bien.
La beauté est autour de nous et on n'y fait plus attention.
Bah, vous venez, oui.
Oui.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est à la Saint-Norbert pour avoir un peu de détente et de culture. Pendant une heure, tu remettras le couvert. Alors, au menu aujourd'hui, et si la menace ne venait pas du ciel, mais du fond des océans, eh bien, c'est le parti pris d'Abyss, le nouveau thriller écologique diffusé depuis hier en série sur France 2. Ce sera à découvrir avec Pauline Harré. Et puis, on le sait peu, mais la Hongrie a été pionnière en matière d'art photographique. Pourquoi et comment? Viviane Perrin nous tirera tout cela au clair dans Complément d'objet. La photo, justement, elle lui a permis de développer ses talents loin des clichés habituels et il l'a prouvé une nouvelle fois avec une exposition croisant personnalité d'hier et celle d'aujourd'hui. Bonjour Sacha Goldberger.
Bonjour, bonjour.
Goldberger ou Goldberger, selon qu'on le prononce à la française, est-ce que vous avez une préférence ?
Écoutez, ça dépend qui le prononce, mais j'aime bien les deux.
Vous aimez bien les deux. Alors, on va essayer d'en choisir une. Goldberger, moi, ça me va très bien. Ça me permettra de ne pas me vautrer à l'antenne. Alors, si on devait mettre une légende sous votre image, on pourrait dire photographe et auteur de romans, mais aussi de livres photographiques. Et pour l'originalité, eh ben, on peut le dire, il n'y a pas photo, puisqu'après avoir fait poser votre grand-mère Mamika en héroïne de comics, vous avez réalisé la série Super Flemish. Vous avez transposé des super-héros genre Batman ou Wonder Woman en peinture flamande du 16e siècle. Un regard décalé qu'on retrouve dans Portrait croisé, soit une quarantaine de célébrités d'aujourd'hui dans la peau de personnalités du passé. C'est un travail qui a donné lieu à une exposition à Nice au printemps dernier, le tout regroupé dans un album publié aux éditions Révélator. Alors pourquoi cette démarche artistique et spatio-temporelle? Qui sont ceux et celles qui ont accepté de devenir Charlot, la Joconde ou Dracula? Eh bien, on va le découvrir ensemble, tout doux, sous l'œil de Sacha, c'est parti.
Tout doux, avec Vincent Belletti.
J'ai été très étonné parce que sur cette photo, j'ai une expression qui n'est pas du tout la mienne. Il y a une espèce de colère qui sort comme ça, qui sort par les cheveux aussi. Et j'étais assez content parce que je crois que c'est plutôt ça, Beethoven, c'est-à-dire une espèce de force intérieure qui jaillit, une douleur dans le corps que moi je ne connais pas. Et il m'a semblé que c'était là sur la photo, alors ça m'a ému.
Voilà, sur fond d'hymne à la joie, Eric Emmanuel Schmitt en Ludwig van Beethoven, l'un de ses 38 portraits croisés qu'on peut découvrir dans ce livre. Et c'est vrai que quand on voit le résultat, l'écrivain transposé dans le célèbre tableau de Joseph Karl Stiller, avec la perruque, l'écharpe rouge et la main qui tient une partition, le résultat est vraiment bluffant. Vous gardez quel souvenir de ce portrait, de cette rencontre avec Schmitt, Sacha Goldberger?
Avouer que j'ai beaucoup de chance parce que en fait ce projet est né pendant le Covid. À un moment donné, en fait, le gouvernement a décrété que les artistes et les professions qui tournaient autour des milieux artistiques étaient non essentielles. Je vous avoue que ça a fait un espèce de raz-de-marée dans notre profession parce que pour moi et pour les gens qui travaillent avec moi, et je pense que pour de nombreuses personnes, la culture, c'est essentiel. Ça permet de survivre et puis ça permet aussi d'aider les gens qui font des métiers sérieux, c'est-à-dire essentiels, les médecins, enfin les gens qui nous soignent et toutes sortes de professions. Et donc quand on nous a dit ça, j'ai réagi assez brutalement et je me suis dit, il faut que je transforme cette colère en quelque chose de positif, comme j'essaye de faire en général. Et donc ma première réaction, c'était d'appeler les gens que j'aimais bien, les artistes, mon équipe, et de leur dire, écoutez, on va pas laisser ça comme ça. En fait, on va faire une série qui va s'appeler Non Essentiel, et dans lequel on va faire des photos de gens de la culture qui sont non essentiels. Donc j'ai contacté Pierre Richard, j'ai contacté...
Il y aura toute une série dont on parlera tout à l'heure.
Et, oui. puis l'idée, c'était, j'aurais proposé de faire des portraits, voilà, comme ça. Donc votre question n'était pas celle-ci, mais comme ça, au moins, vous avez l'origine du projet.
De toute façon, j'allais vous la poser, hein, comment est né le projet, ça fait partie des questions incontournables dans ce genre d'interview. Mais pour en revenir à Schmitt, qui est quand même en Beethoven et qui préface d'ailleurs l'album, hein, le livre-album qui regroupe ces portraits qui ont été exposés à Nice, quel souvenir vous gardez quand même de cette rencontre avec Schmitt? C'est quand même assez bluffant, hein, on a l'impression de voir Beethoven en face.
Alors, d'abord, la première fois que je discute avec des célébrités, c'est au téléphone. On essaye de voir quels sont les personnages qu'ils aimeraient incarner, soit moi et mon équipe, parce que je travaille pas tout seul. On est une très grosse équipe. Moi et mon équipe, on fait des propositions. Et puis, parfois, c'est les auteurs eux-mêmes qui disent, écoutez, moi, j'adore ce personnage, j'aimerais beaucoup le travailler. Donc, je crois qu'on s'est mis d'accord, lui et moi. Et on lui a proposé une peinture de Beethoven, effectivement, où il a l'air extrêmement sérieux. La première fois qu'il est arrivé dans le studio, il faut savoir que Eric Emmanuel Schmitt est un monsieur extrêmement souriant. Il sourit tout le temps. Il a toujours l'air joyeux. Et là, tout d'un coup, je lui ai demandé de devenir sérieux, voire antipathique. Et c'est vrai que vous avez passé un petit extrait. Même lui était surpris de voir à quel point il pouvait avoir l'air dur. Alors que, en réalité, si vous le croisez, vous verrez, c'est vraiment un type délicieux.
Un type délicieux. Alors, Eric Emmanuel Schmitt n'est pas le seul à, bien sûr, avoir posé dans cet ouvrage. On va en reparler dans un instant, mes petits retours dans le passé. Sacha Goldberger ou Goldberger, allez, on va choisir Goldberger. Vous êtes né l'année d'un mois de mai révolutionnaire, ce qui est déjà de bon augure. Est-ce que la photo, ça a été tout de suite une évidence quand vous étiez enfant? C'est-à-dire, quand je serai grand, je serai photographe ou pas du tout?
Écoutez, pas du tout. Pas du tout. Quand j'étais petit, je voulais devenir chauffeur de taxi. Vous voyez, donc on est loin. Mais assez rapidement, je me suis aperçu quand même que j'aimais raconter des histoires, quel que soit le support. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'a pas quitté, quels que soient les boulots que j'ai pu faire dans ma vie. À chaque fois, j'ai toujours raconté des histoires. Donc j'ai écrit, j'ai travaillé dans la publicité comme directeur artistique, et on raconte des histoires. Alors c'est des histoires qui sont faites pour vendre des produits, mais ça reste des histoires. J'ai fait des livres de photos, et puis la photographie. J'ai écrit aussi des contes pour enfants, mais qui n'ont pas encore été publiés.
Donc c'est raconter des histoires en priorité. Et comme vous l'avez dit, eh bien ça passe par la publicité. Vous allez travailler pendant 12 ans. Vous avez repris des études de photographie à l'école des Gobelins à Paris. Justement, pourquoi vous êtes réorienté vers la photo exclusivement?
Alors,
comme support d'expression.
Pour vous dire la vérité, j'ai fait un livre parce que à l'époque mon amoureuse m'avait laissé, m'avait quitté. Et je lui ai fait un livre à base de photos et de textes. Ouais. Ce livre a été publié. Il s'appelle Je t'aime tout simplement. Il a été publié dans le monde entier. Et puis les éditeurs m'ont proposé de faire une suite. Et donc là, je me suis dit, si tu fais des photos avec des textes, les premières photos de ce livre étaient assez minables. Il va peut-être falloir s'intéresser à la photographie de plus près. Donc j'ai été voir des amis photographes avec qui j'avais l'habitude de bosser et qui m'ont donné un relais flex, un moyen format. Et puis j'ai fait un deuxième livre, puis un troisième. Et là, il m'a semblé nécessaire de faire des études. Et c'est pour ça que je suis retourné au Gobelin. Et je me suis dit que le support photographique était très intéressant, on pouvait y raconter beaucoup de choses. Et quand j'étais dans la publicité, je faisais appel à des photographes professionnels. Et là, je me suis dit, ça serait bien que tu fasses appel à toi-même, c'est-à-dire que quand tu as une idée, ce soit toi qui la réalise.
Qui la développe. Alors, comme quoi, un chagrin d'amour, hein, on peut le dire, ça peut donner vocation, une carrière de photographe, hein, Sacha. Alors, votre nom, il va commencer à se faire connaître avec une personne qui vous est chère et que vous allez mettre derrière la caméra, mais aussi derrière l'objectif.
Bonjour, poignée de porte. Comment allez-vous?
Je réponds pas parce que c'est pas un prénom.
Non, c'est un prénom composé.
Oui, j'aimerais un autre prénom.
Parce que, attends, tu pourrais t'appeler Poignée ou Deux Portes, et t'as de la chance, tu t'appelles... En plus, c'est un prénom composé noble. Alors, vous faites quoi, Poignée de Porte, dans la vie?
Je fais pas grand-chose.
Non?
Non.
Et vous êtes à la retraite?
Oui.
Et alors, comment on fait si jamais on veut ouvrir la porte?
J'ouvre la porte.
Ah, donc vous n'êtes pas vraiment vous êtes à la semi-retraite.
Semi-retraite.
Voilà, une poignée de porte en semi-retraite. Dialogue un petit peu surréaliste, extrait d'une série de petites vidéos. Vous discutez avec votre grand-mère, Frédérica Goldberger, autrement dit Mamika. Qu'est-ce qui vous attachait autant à votre grand-mère, Sacha?
Écoutez, ma grand-mère, elle m'a élevé avec ma mère. Et puis on a toujours été complices. C'était une femme incroyable. Elle a sauvé un certain nombre de gens pendant la guerre. Elle-même était juive, mais elle a sauvé, je crois, 11 personnes. Elle a été mariée plusieurs fois. Elle a eu une vie exceptionnelle, incroyable. Et puis quand elle est arrivée à la retraite, elle s'est sentie un peu seule. Et là, ça me semblait normal de lui rendre tout ce qu'elle m'avait donné. Et donc je me suis installé chez elle avec mon équipe, avec mes assistants. Et puis on a commencé à faire des photos. photos, comme ça au départ, c'était pour mon site. Et puis petit à petit, avec Internet, avec tout ça, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et puis il y a eu une demande de sa part, parce qu'elle est passée de l'ombre à la lumière, parce qu'on s'est amusé tous les jours. Mmh. Et on a fait des photos, je crois, pendant près de 20 ans. Un peu moins, elle est morte il y a 2 ans, elle avait 102 ans. Et entre-temps, on s'est marré comme jamais.
Ouais. Alors, c'est vrai que Mamika nous a quittés, mais il y a ces photos incroyables où elle posait en super-héroïne des années 50 avec casque étoilé, cap et collant moulant, aussi bien assise dans une laverie automatique que sur le toit d'une voiture américaine. Une série donc s'intitule Mamika, il y a eu plusieurs séries justement là-dessus. C'était quoi l'idée derrière? C'était de montrer une autre facette de la vieillesse, la farce de l'âge. Hein. C'est comme ça que titrait, je crois, un journal pour... caractériser cette série.
Alors le projet il est dingue hein, parce que au départ on a fait des photos ensemble pour mon site et puis ça a pris une ampleur qu'on ni elle ni moi n'imaginions. On a été exposé en Inde, on a été exposé au Brésil dans des musées. Enfin c'est un projet, on a eu des expos partout vraiment et puis ça a été vendu dans des galeries, enfin ça a été incroyable. Mais l'idée de base c'était d'abord effectivement de faire des images un peu décalées parce que ma grand-mère à l'époque avait 85 ans, elle avait un début de d'Alzheimer. Et on s'amusait toujours. Et donc, toutes les mois, les images que je voyais de la vieillesse, c'était toujours sordide. C'était toujours du noir et blanc. Et donc, on a commencé comme ça. Et puis, petit à petit, on a fait une série, puis une deuxième. Et puis, un magazine qui nous a dit, j'aimerais bien faire une série avec votre grand-mère. Le magazine s'appelait Le Wad, qui était un super magazine à l'époque. Donc, on a fait une série de mode avec elle. Ouais. Et puis, régulièrement, on se disait, on va arrêter. Et quelques mois après, elle revenait vers moi avec cet accent incroyable. Elle me disait, mon chéri, tu ne veux pas refaire des photos?
C'est
si, même si tu veux.
Et ça, vraiment comme mannequin, si je puis dire. On sent vraiment la grande complicité qui vous unissait. Alors, ce regard décalé, vous allez poursuivre avec la série Super Flemish, où cette fois-ci, Superman, Batman, le Joker, Wonder Woman posent avec colorette et pourpoint dans le pur style peinture flamande du 16e, 17e siècle. Vous allez aussi être l'auteur d'une trentaine d'expos un peu partout à travers la planète. Alien Love, avec cet extraterrestre façon Roswell atterrit dans ses décors des années 50. Il y a Secret Eden qui mêle érotisme et imaginaire. Les Invisibles de l'Elysée, vous tirez le portrait de personnel du palais présidentiel. Alors il y a une opératrice d'accueil, pâtissier, l'assistant de cabinet. Tout ça pour arriver aujourd'hui à ces fameux portraits croisés entre personnalités d'hier et d'aujourd'hui. Alors on va y revenir sur ces portraits. Ça sera juste après une première page musicale que vous avez choisi pour nous, comme on le demande à tous nos invités. Et en premier titre, c'est Stevie Wonder, For Once in My Life. Vous nous expliquez pourquoi ce choix en quelques mots?
Alors c'est très simple, en fait j'ai un petit garçon qui a 2 ans et le matin souvent il me dit on danse et c'est le morceau que je mets avec lui, je le prends dans mes bras et on danse ensemble dans la cuisine comme des fous. Personne ne nous voit, tout le monde dort dans la maison et en général c'est un moment pour nous. Voilà, et quand vous m'avez dit quel morceau, je me suis dit que ce morceau-là il était très bien.
On va se remettre ce morceau dans l'oreille et on se retrouve tout de suite après pour découvrir ces portraits croisés.
Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I do. Oh, someone warm like you would make hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have someone who needs me. We'll be right back.
Once in My Life. Autant vous dire, avec vous Sacha, que tout le monde est en train de danser sur le plateau de RCF avec ce rythme et cette chanson de Stevie Wonder, le Wonder Choix de Sacha Goldberger, photographe et auteur d'une exposition qui en a étonné plus d'un. C'était en mars et avril dernier à Nice, sur la promenade des Anglais.
Un portrait du Che sur la promenade des Anglais, ça peut dérouter. En y regardant de plus près, il y a comme un doute.
Les frérots de la Vega, c'est Flo. C'est Che Guevara.
C'est Flo ou c'est Che Guevara?
Ah non, c'est les deux.
Flo, l'un des chanteurs des frérots de la Vega, a enfilé la veste et le béret du chef de la Révolution cubaine. Un peu plus loin, un sociétaire de la Comédie française pose tel Jean-Baptiste Poquelin.
C'est Galienne, ouais, avec Molière, ça lui va bien.
Voilà, ça lui vient bien, effectivement, extrait d'un reportage que vous avez consacré nos confrères de France 3, Provence, Alpes, Côte d'Azur, en février dernier, lors des premiers jours de cette exposition Portrait croisé. Écrivain, comédien, humoriste, chanteur, musicien, danseur, ils sont 38 à avoir posé devant votre objectif pour incarner des personnalités du passé. Alors, vous nous l'avez expliqué, Sacha, au départ, c'était l'idée de redonner toute son importance à la culture, cette culture non essentielle, un peu oublié pendant le Covid. Mais est-ce que cette démarche allait peut-être plus loin que ça, l'effet de surprise? Est-ce que c'était pas aussi dédramatiser la culture avec un grand C, c'est-à-dire la rendre plus accessible?
Alors, en fait, donc, comme je vous le disais, ce projet, j'ai commencé à le monter. Et puis, quand j'ai vu que c'était un projet très important et qu'il fallait le faire, j'ai été voir Cultura, qui est une enseigne que j'adore, qui est dans toute la France. Alors, je suis pas là pour faire de la pub, mais il faut admettre qu'on partage un peu les mêmes valeurs. Et je leur ai dit ça. Je leur ai dit, écoutez, si vous nous aidez pas à mettre en avant la culture, qui va le faire? La culture a besoin d'être partout, pas seulement à Paris, pas seulement dans les grandes villes. Et donc, ça correspond à vos valeurs. Et donc, je leur ai amené ce projet et ils m'ont dit, banco, on y va parce qu'on y croit, parce que c'est un beau projet. Et donc effectivement, comme vous le dites, c'est pas seulement des gens qui sont costumés. Alors on travaille avec une équipe de cinéma, en fait, donc on est loin du déguisement, c'est-à-dire que ce sont des costumes de théâtre, ce sont des costumes fabriqués sur mesure. On a c'est des équipes de entre 15
c'est vrai qu'on voit que c'est hyper
personnes.
Travaillé hein. Il y a des résultats bluffants. Victor Hugo, François Berléand en Victor Hugo, mais on s'y croirait hein. Je crois que c'est une des photos les plus vraiment bluffantes de cette exposition. Donc, rendre la culture plus accessible, hein, c'est ça aussi. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir peur, Victor Hugo, Molière, tout ça. C'est vrai que ça peut faire peur à certains.
Je crois que la culture, elle n'est pas réservée à une élite. Je crois qu'il y a plein de cultures. Et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, avec Internet, on a accès à toutes sortes de choses. On a accès à cette culture. Et donc, ce projet-là, il permet, comme vous le dites, un, de dédramatiser et ensuite de permettre à certaines personnes peut-être de s'intéresser un peu plus à des choses qu'ils connaissent pas, de donner envie, mais aussi de s'amuser. Alors, on s'amuse comme je m'amusais avec ma grand-mère, mais sérieusement, dans l'équipe, il y a des model makers, il y a des gens qui fabriquent des prothèses, il y a des gens qui font des effets spéciaux, j'ai des maquilleurs, des coiffeurs, tous ces gens-là sont pour moi les meilleurs dans leur genre. Ils viennent tous plus ou moins soit de la mode, soit du cinéma. Et en fait, l'objectif, c'est que d'abord on passe un bon moment, mais ensuite que le portrait final soit étonnant. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a la plupart du temps vraiment réussi notre challenge. Et vous parliez de Berléand. Je me suis tellement marré. On s'est tellement marré quand on a fait cette photo.
Parce que c'est la reproduction quasiment parfaite du tableau. On voit Victor Hugo à la fin de sa vie, appuyé avec sur une table, le coude avec le grand-père. Voilà, les livres.
Dans l'équipe, j'ai des gens qui s'occupent un peu de chercher tous ces objets, de trouver les costumes. Je travaille avec Thierry Fortin qui s'occupe des costumes. Son métier à lui, c'est d'aller à droite et à gauche. Il sait exactement où trouver les choses. Et quand il les trouve pas, il a avec lui une équipe de gens qui fabriquent. Et notre souci de la perfection est tel que justement, on cherche pas à faire c'est pas une série de sosies, hein, c'est pas l'idée. Il se trouve que François est acteur et donc ça facilite les choses. Ensuite, quand j'ai parlé de ça à François, il m'a dit qu'il se laissait pousser les cheveux pour l'occasion. Donc on a été quand même assez loin. Puis après, on a posé des postiches. Il y a un moment donné, en fait, une photo, il y a la lumière, il y a les accessoires, il y a les costumes, il y a le maquillage, il y a la coiffure. Et en fait, c'est ce tout qui va faire que la chimie prend. Et puis il y a l'acteur. Et il faut avouer que voilà, François Berléand, c'est un acteur incroyable. Et donc on a beaucoup déconné, mais au moment d'appuyer, c'est comme avec Guillaume Gallienne, au moment d'appuyer, le truc
sérieux,
est là, quoi.
Ouais,
le truc est là et c'est à s'y méprendre.
Alors des exemples, on peut en donner plein. Il y a Mathieu Chédid en Charlot, il y a Kev Adams en Joconde, il y a Zaz en Marlène Dietrich, Renaud Capuçon, le violoniste en Buster Keaton, Mathilde Amet en Colette, Alexandre Jardin en Dracula. Vous nous direz dans un instant comment s'est fait ce choix. Hein. Est-ce que ce sont eux qui vous ont demandé expressément une personnalité à représenter? Et puis aussi pourquoi elles ont accepté de jouer le jeu? C'est pas uniquement par curiosité ou par défi d'ailleurs. On entendra des réactions de quelques-uns, justement, de quelques-unes de ces personnalités, nous expliquer pourquoi elles y ont participé. Mais le mardi, eh bien, on replonge aussi dans le passé avec Viviane Perret, écrivaine et historienne. Et aujourd'hui, eh bien, en votre honneur, on va parler d'un pays, d'un musée pionnier dans l'art de faire de la photo.
Tout doux. Complément d'objet.
Et bonjour Viviane.
Bonjour Vincent.
Alors aujourd'hui, vous avez voulu rendre hommage aux origines hongroises de Mamika, la grand-mère de Sacha, en nous parlant du musée hongrois de la photographie. Où se trouve donc ce musée précisément?
Eh bien, il se trouve à Kecskemét, à 80 km de Budapest. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Bien évidemment des photographies. Plusieurs milliers, dont un daguerreotype de 1840. Mais ce n'est pas tout. Photomètre, projecteur, publicité, archives, équipement pour chambre noire. Bref, pour abréger une énumération à la Privert, c'est une collection d'un million d'objets en lien avec la photographie, son histoire en Hongrie et dans le monde.
Parce qu'il faut préciser aussi que la Hongrie nous a donné un nombre impressionnant de photographes qui ont su faire évoluer cet art.
C'est tout à fait exact. On sait généralement que les célèbres André Kertész, Brassai et Robert Capa étaient d'origine hongroise. On connaît peut-être moins certains de leurs compatriotes Lucien Hervé, grand maître de la photographie d'architecture et photographe officiel de Le Corbusier, ou Nora Dumas, l'une des rares photographes qui s'est spécialisée dès les années 1930 dans les photos de vie paysanne, ou encore André Steiner et son esthétisme du corps. Comme le disait avec beaucoup d'humour Robert Capa, il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut aussi naître hongrois.
Et savoir sortir aussi des clichés. Mais de quand date ce musée qu'il a lancé?
Eh bien, l'idée de créer un musée de la photographie date de 1862, c'est-à-dire 23 ans après seulement la date officielle de la naissance de la photographie. Pour l'anecdote, 1862, c'est aussi l'année de la naissance d'Auguste Lumière qui, lui, animera les photos. Quant à sa création, on la doit à Ferenc Veresch, qui avait lancé un appel dans le journal pour inciter les professionnels à tout photographier, sans exclure ni personne, ni animal, ni construction, afin que, disait-il, grâce à ce projet, la photographie pourrait contribuer à l'histoire en léguant les photos aux générations futures.
C'était une idée de la transmission qui était très en avance pour son époque.
Transmission et inspiration qui a perduré dans le temps, car Henri Cartier-Bresson, grand photographe français, n'hésitait pas à reconnaître que nous devons tous quelque chose à Kertész. Kertész qui lui affirmait « Mon anglais est mauvais, mon français est mauvais ». La photographie est ma seule langue.
Une langue devenue universelle. Bien, merci Viviane. Et comme pour Sacha, ben pour votre talent, il n'y a pas photo. On vous retrouve donc la semaine prochaine. Merci Viviane.
Attention, 1, 2, 3, j'appuie. On sourit pour l'éternité.
Doudou avec Vincent Belletti.
Voilà, on sourit pour l'éternité, finale de la célèbre chanson des frères Jacques. Je ne sais pas si vous connaissiez ce musée en Hongrie, Sacha.
Alors non, je ne connaissais pas. Il y a la fondation Robert Capa à Budapest, ouais. qui mérite d'être visitée. Et c'est vrai que les photographes hongrois, ils sont dingues. Kertész, il a fait des trucs magnifiques. Et ils sont pionniers dans le noir et blanc. Et reconnu dans le monde entier. Ils ont pas mal fait, l'un et l'autre, je crois, pas mal de photos en France.
Viviane, alors vous êtes toujours avec nous, vous n'êtes pas partie. Hein.
Je ne suis pas partie. Et c'est vrai qu'ils ont été pionniers, les photographes hongrois, dans la photographie sociale. Et à Budapest, vous trouvez aussi la maison hongroise de la photographie qui est à visiter et qui est dans un bâtiment absolument magnifique.
Est-ce que vous avez
vous avez un très bon accent hongrois. Ouais, franchement, alors parce que tout le monde ne dit pas Budapest, les gens ils disent Budapest. Et par contre, alors c'est Kertész. Ouais, c'est. Ouais. Et si vous voulez aller voir un musée, je crois qu'il y a un musée Goldberger donc qui est le musée de ma famille.
Ouais.
Vous verrez très peu de photos de Carthage là-bas, mais c'est l'histoire de. Je l'ai découvert il y a quelques mois. Il nous avait demandé à moi et à ma famille l'autorisation, et on découvre toute l'histoire de cette famille et de l'usine et de tout ce qui s'est passé avant la guerre, pendant la guerre. Le musée est passionnant. Voilà, c'est sûrement beaucoup moins intéressant que le musée Carpa, mais
ouais. Bon, écoutez, c'est toujours bon à noter. Les photos de portraits croisés, est-ce qu'elles ont été prises et tirées en numérique ou vous avez utilisé l'argentique, autrement dit la bonne vieille pellicule, Sacha ?
Alors, le début du projet a été shooté en argentique. Et puis en fait, techniquement, c'est quand même. Je travaille beaucoup en argentique. La plupart de mes séries sont en argentique. Si vous allez à la Gacilie en ce moment, vous verrez il y a les extraterrestres et une partie a été faite en argentique. Sur Portrait croisé, je travaille en numérique pour une raison assez simple. C'est que on choisit avec les artistes que je photographie, on choisit le portrait final. Et ça, c'est pas possible avec l'argentique. Et je trouve ça assez pratique de pouvoir échanger ensemble, et comme il y a souvent une espèce de travail de précision au millimètre, alors on s'en rend pas compte, mais la main est un peu plus haute, plus droite, ou parfois il y a des choses qui sont quasiment impossibles à faire. Le numérique nous permet, avec un retour en direct sur les écrans, il nous permet de voir, il permet aux artistes de voir aussi, et donc même si je préfère vraiment l'argentique, je travaille avec les deux bien sûr, mais dans ce cas-là le numérique me semble nécessaire.
Sacha Goldberger ou Goldberger, notre invité photographe. On va continuer de parler de ces portraits croisés parce que certains, on l'a dit, sont vraiment bluffants. Et puis aussi, qu'est-ce qui a poussé toutes ces artistes et personnalités à se glisser dans la peau d'icônes du passé? On se tournera aussi du côté du petit écran pour le coup de cœur série de Pauline Arrée. À tout de suite.
Tout doux, une émission de RCF et Radio Notre-Dame, présentée par Vincent Bellotti.
Et retour sur le plateau de Toudou avec notre invité du jour, Sacha Goldberger, photographe et auteur de nombreuses publications et expositions, dont ses portraits croisés, soit 38 personnalités du monde artistique d'aujourd'hui qui ont accepté de représenter une figure iconique de la culture populaire du passé. Il y a Don Quichotte, Molière, Victor Hugo, mais aussi Freddie Mercury, Gandalf du Seigneur des Anneaux, encore Dracula avec Alexandre Jardin. Alors ça donnait lieu à une expo sur la promenade des Anglais à Nice et s'est regroupé aujourd'hui dans un livre publié aux éditions Révélateur. Alors je voudrais savoir quand même, Sacha, comment est-ce que vous avez mis en adéquation ces personnalités du passé et celles du présent? Est-ce que ce sont elles qui vous ont expressément demandé, moi j'aimerais bien être, Freddie Mercury ou Charlie Chaplin, ou c'est vous qui leur avez proposé? Comment ça s'est passé?
Alors en fait, il y a un peu des deux. Moi j'ai une équipe, comme je vous l'ai dit, on travaille avec une grosse équipe et on travaille souvent ensemble. Et donc quand on a des personnalités, il y a toujours un peu de travail en groupe. On fait des recherches. Alors c'est pas seulement le personnage qui nous intéresse et sa finalité, mais c'est l'image que ça va donner. Mmh. Exactement. Mmh. Et puis après, les artistes, ils ont aussi leur mot à dire. Donc ce qui se passe en général, c'est que quelqu'un de mon équipe nous met en contact. Moi, je pose des questions aux artistes en leur disant, est-ce que vous avez des envies, Et puis on travaille. Et en général, je cherche des idées, je les soumets à Nathalie qui bosse chez Cultura, et puis tous ensemble on va, après moi j'appelle l'artiste et puis je dis à l'artiste, voilà, j'ai pensé à ça et ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis l'artiste parfois me dit, tiens, ça c'est j'ai cette idée là depuis longtemps et c'est la bonne idée. Donc c'est un peu des deux, ça dépend des deux. Je peux vous dire qui a choisi quoi, mais effectivement il y en a qui ont des très bonnes idées. Par exemple François, c'est son idée. Comme Guillaume, il m'a dit, j'adorerais faire Molière. Mmh. Et c'est vrai que, alors après, nous, on a fait la recherche pour savoir quel tableau de Molière, quelle représentation on allait faire. Mmh. Et puis, parfois, on amène des, Pénélope Bagieux m'a appelé et quand on s'est parlé, elle nous a dit.
Alors Pénélope Bagieux, dessinatrice, auteure de BD avec succès. Alors elle pose en Regan, cette fille possédée par le démon dans L'Exorciste, un film qui l'a traumatisée depuis ses 13 ans, parce qu'elle l'avait vu en cachette. On lui avait interdit de le voir. Et évidemment, quand on interdit quelque chose à un enfant, eh bien il va le voir. Et elle a été traumatisée et elle pose donc en Regan Exorciste avec la tête complètement de travers, le sang qui dégouline. Et j'ai l'impression que pour elle, c'était une thérapie justement dans cette fille de L'Exorciste.
Alors, pour elle et pour moi. Ouais. Enfin, et pour nous tous. C'est-à-dire que quand on s'est parlé, elle m'a dit « Écoute, Sacha, je crois qu'on se tutoie d'ailleurs. J'en ai marre d'être la jolie fille gentille. J'aimerais bien être horrible. Voilà, j'en ai marre d'être belle. Je voudrais que tu me fasses un truc où je suis moche. » Et donc, on a bossé. Et puis, on lui a proposé quelques personnages. Mais c'était celui-là, notre recours. Et on lui a dit « Voilà, on va faire ça. » Et ça l'a fait marrer. Je pense qu'il y a qu'elle qui pouvait faire ce personnage. Ouais. C'est vrai que ce film a terrorisé un certain nombre d'enfants, dont moi et elle.
Et le fait après, de poser en vegan, ça lui a permis de dépasser ce traumatisme. C'est presque une psychothérapie par l'image.
Alors, il faut que vous sachiez que le shooting a été très dur parce que le jour même, on a fait une photo de Bartabas. Donc, on a shooté dans le cirque Zingaro en extérieur.
Je crois que Bartabas.
Voilà, il était en Don Quichotte. C'était un shoot exceptionnel. Et on s'est retrouvé en extérieur, il faisait 3 degrés. Et la pauvre, elle était en chemise de nuit. Et donc, elle est arrivée dans le studio extérieur, en chemise de nuit, avec 3 degrés. Elle était verte.
Ça tombe bien pour le personnage.
Exactement. Et mon équipe est venue en me disant, est-ce qu'on la réchauffe? J'ai dit, non. Je suis désolé.
Il faut lui donner une allure de mort-vivante.
Et en fait, elle était tellement frigorifiée que ça a transformé... Enfin, je crois que vous connaissez tout. Il y a eu pas mal de légendes autour du film disant que le réalisateur avait martyrisé ses acteurs. Il y a eu pas mal de drames. Et là, je fais partie du voilà, je vais dans la continuation du film, c'est-à-dire que je l'ai un peu martyrisée, elle était dans le froid, elle avait qu'une envie, c'est que ça se termine. Et le portrait, je pense, a gagné parce qu'il faisait froid et parce qu'elle a l'air frigorifiée et terrorisée.
Alors, pourquoi participer justement à cette expérience? Les motivations étaient diverses. Écoutez par exemple Olivia Ruiz qui a posé en Barbarella en tenue hyper sexy.
J'ai accepté de participer à cette expérience parce que c'était une occasion d'abord de s'amuser. Une femme libre, une femme qui domine, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Alors je suis quelqu'un de très pudique, donc je n'étais pas hyper à l'aise avec le costume choisi par Sacha, mais j'ai accepté, donc j'ai joué le jeu jusqu'au bout en laissant ma pudeur plus ou moins devant la porte exceptionnellement.
Voilà, la pudeur de côté pour incarner la reine de la galaxie, Barbarella. Quelles étaient les autres motivations à participer à cette exposition? Est-ce qu'on peut dire que, au départ, il y avait un peu de curiosité? Il y a aussi l'amitié qu'on vous a portée. Ça a compté beaucoup, j'ai l'impression, dans cette participation.
Alors, écoutez, il y a quelques personnes que je connaissais, mais très peu, en fait, sur les 30, effectivement. Il y a une ou deux personnes que j'ai amenées. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que ce projet, c'est un beau projet. Et je pense qu'on a besoin de projets culturels en France et de projets culturels populaires. Donc, je pense que ça, c'est déjà une des raisons. La deuxième, d'après ce que moi, j'ai entendu, c'est que moi et mon équipe, j'ai une équipe qui travaille très très bien et qui est assez précise, et donc je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui avaient envie de passer par là et de voir jusqu'où on pouvait aller, à quel point on pouvait être précis et à quel point le portrait pouvait leur ressembler. Et puis il y a évidemment, j'imagine, de la curiosité. En tout cas, tout ça a été fait bénévolement et je crois il y a aussi des gens qui ont joué. Alors dans l'amitié, j'ai 2-3 artistes avec qui je m'entends très très bien. Pierre, j'avais déjà fait quelques portrait de lui, il a accepté d'y retourner et je pense qu'il a fait ça pour me faire
Pierre
plaisir.
Pierre Richard, en spermatozoïde. Alors, du film de Woody Allen, tout ce que vous voulez savoir sur le sexe, c'est incroyable cette photo. Et il y a aussi Eric Antoine en Gandalf du Seigneur des Anneaux qui a posé pour vous. Pour certains, c'était aussi l'occasion, ils le disent dans votre livre, de révéler leur moi profond à travers le personnage. On peut donner l'exemple de Mathieu Chédid dans Charlot, qui révèle la part d'enfance et de malice qu'il porte en lui, ce qu'il n'a pas pu l'exprimer comme ça. Et donc la photo Charlot a permis de le faire. Vous l'avez ressenti chez d'autres? Ça agit un peu comme un révélateur?
Alors Mathieu, on avait déjà travaillé ensemble aussi plusieurs reprises, et je lui ai proposé c'est le premier à qui j'ai proposé un portrait, et en fait c'était évident qu'il fallait qu'il fasse Charlot. C'est-à-dire que Mathieu, quand on le connaît un peu, c'est le type le plus enfantin, le plus décalé, le plus précis, et son il ressemble à Charlot. Et donc quand je l'ai appelé et que je lui ai dit j'aimerais bien faire un portrait, il m'a dit fais ce que tu veux, de toute façon j'ai fait confiance. Je lui dis ok, est-ce que ça te va, Charlot? Et il a dit oui tout de suite. Ouais. Et quand on a fait le shooting, il s'est marré. C'est-à-dire, c'était très marrant. Le shooting était génial parce que il s'est mis à danser avec sa canne comme s'il était en concert. Et il y avait une espèce de joie. Alors, on en a fait plusieurs et le Charlot lui va si bien.
Et Charlot lui va si bien. Effectivement, c'est à retrouver dans cet album Sacha, le fantastique, la science-fiction. On le retrouve aussi dans ses portraits, mais il va en être aussi question dans la série, dans une série aux angoisses abyssales que nous propose de découvrir cette semaine Pauline Harry.
Winter is coming.
Cher Winston.
Votre Majesté.
Je m'appelle Tokyo.
C'est marrant, vous parlez comme dans une série.
Tout doux, l'actu des séries.
Et bonjour Pauline.
Bonjour Vincent.
Alors, quand la haute mer montre les dents, c'est Abyss au pluriel, diffusé depuis ce lundi sur France 2, une série réalisée par Franck Doelger. De quoi et de qui ça parle ?
Eh bien, imaginez par exemple une baleine qui s'en prend à un bateau de touristes qui l'observait, un homard qui empoisonne mortellement un chef cuisinier dans son restaurant, ou encore des centaines de blocs de méthane inflammables qui remontent à la surface. Bref, autant de signes qui montrent un peu partout à travers le monde que la mer a décidé de se retourner contre l'homme. La nature dans cette série devient un personnage à part entière avec lequel il faut renouer le dialogue. Et vraiment, il y a urgence. Je vous propose un extrait de la bande-annonce.
Les invasions de crabes sont devenues de plus en plus fréquentes. Les attaques de l'ampleur de celles-ci sont sans précédent.
Quelque chose se sert des océans comme d'une arme contre nous.
Effectivement, ça rigole plus. L'humanité est-elle donc en danger, Pauline ?
Oui, elle est en danger. Et pour comprendre ce qui se passe, une dizaine de scientifiques du monde entier mènent l'enquête. Parmi eux, Cécile de France, qui interprète une professeure de médecine basée à Saint-Jean-de-Luz. Elle est l'un des pivots de cette série internationale, hein, vraiment. Et à ses côtés, on a un casting 5 étoiles qui reflète la volonté d'équité dans la représentation des personnages, que ce soit par la couleur de peau, la langue ou le genre. Parce que cette série internationale qui a été remise au goût de notre époque, eh bien, elle est adaptée d'un roman allemand, éponyme, un roman catastrophe à succès qui a été publié il y a 20 ans et aujourd'hui, on dirait qu'il se révèle un peu prémonitoire.
Alors justement, comment ce roman plutôt sombre a été adapté à l'écran ?
Aux manettes de la série, vous l'avez dit, on a le showrunner Franck Doelger. C'est un gage de qualité, hein, puisque c'est lui qui a produit Game of Thrones pendant 9 ans. Et produire Abyss, ça n'a pas été simple non plus. Hein. Il a révélé qu'il y avait eu 5 années de travail, 900 pages d'enquête sur les phénomènes naturels qui prennent vie donc sur le grand écran, 1 millier de plans avec effets spéciaux et une dizaine de destinations qui promettent des magnifiques paysages. Et d'un coup, le sombre ne devient plus si sombre.
Plus si sombre parce que Abyss se veut pas non plus fataliste.
Non, au-delà du désastre écologique, Abyss, elle se concentre sur les personnages et les émotions que le spectateur va ressentir. La série, elle nous interroge sur notre avenir, nos actions, dans l'idée qu'il reste de l'espoir et que l'on peut encore agir pour se reconnecter à cette nature qui contre-attaque. C'est vraiment l'idée de renouer le dialogue. Donc il n'y a ni morale, ni culpabilisation, mais seulement une invitation à s'émerveiller et réveiller sa conscience.
Abyss, une mini-série à suivre donc sur France 2 le lundi soir. Il y a 8 épisodes et les deux premiers ont été diffusés hier soir. Et pour les impatients, la série complète est à découvrir sur France.tv. Merci Pauline et à la semaine prochaine pour d'autres frissons aquatiques ou pas. Merci.
Doudou avec Vincent Belletti.
Sacha, je ne sais pas si c'est une série qui pourrait vous tenter, Abyss.
Écoutez, effectivement, ça fait partie des choses de la liste qu'on doit regarder. Ouais. Il y a tellement de séries à voir, il y a tellement de choses à faire en fait.
Est-ce que vous êtes fan de séries, un genre ou une série que vous avez vu récemment que vous pourriez nous conseiller ?
Moi, j'ai adoré The Last of Us.
Mmh. Série post-apocalyptique.
Totalement, reprise d'un jeu vidéo qui était assez incroyable. Et c'est un genre que j'aime bien, que ce soit en littérature. Donc The Last of Us, c'est la dernière série que j'ai vue. Mais c'est vrai que j'ai très peu de temps, en fait. Je regarde jamais la télé. Bon. C'est très rare.
Bon, enfin, en tout cas, des hommes de télé, hein, ou même des femmes de télé. Vous en avez eu aussi, hein, dans votre série Portraits croisés. On va continuer de parler de cette exposition et de l'album qui a suivi. Ça sera juste après une autre page musicale. Et après Stevie Wonder, vous nous proposez Murray Head, Say It and So. Là aussi, Joe, c'est un grand classique, si je puis dire, de cette époque. Pourquoi, justement, ce titre?
Alors c'est vrai, quand on vous dit mais choisissez trois morceaux comme ça, c'est enfin moi j'aime tellement la musique, c'est assez vaste, et ça c'est un morceau que j'écoute en ce moment qui me rappelle mon enfance, et à chaque fois que je l'écoute j'ai les larmes aux yeux, c'est un truc qui me touche, et je me suis dit tiens, ce serait bien d'écouter ça à la radio.
Bon, alors Pierre Samanos à la technique vous apporte un paquet de mouchoirs, hein, en papier. On va passer la musique, on se retrouve tout de suite après.
That's not what I wanna hear, Joe, and I got a right to know. Say it ain't so, Joe, please. Say it ain't so. I'm sure they're telling us lies, Joe, please. Tell us it ain't so. They told us that our hero, the lady's trump card, he doesn't know how to go on. They're clinging to his charm and determined smile, but the good old days gone. The image and the empire may be falling apart. The money has gotten scarce. One man's word held the country together, but the truth is getting fierce.
Joe de Morehead. On est tous retombés dans l'adolescence avec vous, hein, Sacha Goldberger, Viviane et moi, et toute génération. C'est vrai que ça nous donne des frissons de réentendre ce titre. Avec nous, Sacha Goldberger, auteur et photographe, dont l'expo Portraits croisés vient d'être publié en album chez Révélator. 38 personnalités d'aujourd'hui qui ont pris les traits de grandes figures du passé. Alors, dans ces portraits, il y a des icônes issues de la littérature, du cinéma ou de la peinture, mais aussi des reprises de jeux vidéo comme Marc Jolivet en Super Mario ou encore l'humoriste Claudia Tagbo en Pac-Man.
Dans l'idée comme ça, quand on m'a proposé, j'ai dit « Ah ouais, qu'est-ce que je pourrais faire, personnage historique ?» Et quand on m'a dit Pac-Man, j'ai dit « Ouais, que ce soit un gamin de 5 ans ou là, l'âge que j'ai, et puis le futur, on pourra... Il sera toujours présent, voilà. Et puis la couleur. Jaune, l'espoir, quoi. Et puis couleur primaire, enfin voilà, il y a plein de choses. J'étais hyper contente.
Voilà, Claudia Tagbo en Pac-Man symbolisant ce croque jaune de ce croqueur de jaune de fantôme, l'un des 12 premiers jeux vidéo populaires du début des années 80. Et la photo est assez étonnante avec Claudia Tagbo en Pac-Man ou Pac-Woman dans cet album. Quand on parle de culture, c'est pas uniquement la grande culture, les livres, le cinéma, etc. Mais c'est aussi la culture populaire et les jeux vidéo en font partie. C'est ce que vous avez voulu aussi rappeler dans cette exposition, Sacha Goldberger.
Écoutez, les jeux font de plus en plus partie de la culture. C'est-à-dire que, d'abord, qu'est-ce que la culture ? C'est un vaste sujet, mais la nouvelle génération, ils vont plus souvent, ils en savent beaucoup plus sur tout ce qui sort. Et d'ailleurs, certains jeux vidéo font l'objet de films. Là, on vient d'en parler. Mais c'est aussi notre passé, et c'est une forme de culture. Alors, c'est sûr que c'est pas la même que celle qu'on trouve dans certains musées, mais en même temps, la culture, c'est large et accessible à tous. Et c'est là où ce projet est un joli projet. Et c'est important, voilà. D'ailleurs, on a de la chance parce qu'on le continue. Moi, je vais continuer à faire des photos. En fait, Cultura continue à me soutenir sur ce projet. Donc, on va shooter Joestar dans 2 jours. Il y a des gens incroyables qui arrivent.
Qu'est-ce qu'il a demandé, Joestar? Pouvez-vous le dire déjà?
Non, je peux pas vous le dire, mais vous le découvrirez. C'est-à-dire que
en fait, bécassine, ça serait pas mal en bécassine.
Non, mais on l'a pas encore fait, mais je pense que ça va être complètement l'image. Ça va être un portrait dingue. Ouais.
Alors Sacha, on a une tradition dans cette émission. C'est une petite boîte qu'on va tout de suite ouvrir ensemble.
La boîte à tout doux.
Allez, on va encore le rappeler dans les mains. J'ai un petit coffret en bois que je vous montre. À l'intérieur, il y a des cartes, au dos de chacune une question pour mieux vous connaître. Le principe, il est simple. Je vais battre ce jeu. On va tirer 3 cartes au hasard et je vous lirai la question correspondante. Vous avez droit à un joker, hein, même sans Kali. Kali, d'ailleurs, le chanteur qui pose en joker dans l'exposition. De toute façon, il n'y a rien d'indiscret. Alors allons-y, je remue les cartes. Est-ce que vous êtes prêt, Sacha, pour la première?
Bien sûr.
Allez, je tire la première. L'objet dont vous auriez du mal à vous séparer?
Ma poignée de porte. Alors là, pour la petite histoire, il faut que vous sachiez que mon fils s'appelle poignée de porte.
Non, c'est pas vrai.
Il s'appelle comme ça parce que ma grand-mère, Mamika, avant de mourir, j'ai été la voir et je lui ai dit, mamie, comment est-ce qu'on va avoir un enfant? Comment est-ce qu'on va l'appeler? Et elle était très fatiguée et elle avait beaucoup de mal. Et donc, vous avez mis un petit extrait, mais il y a d'autres films comme ça où je lui dis, ben, je vais te proposer des idées de prénoms. Et donc, je lui dis, est-ce que serviette de table, ça te plairait? Et puis, j'ai continué et j'ai dit poignée de porte. Et puis, elle est décédée. Et à son enterrement, j'ai écrit une lettre à mon fils pour parler d'elle. Et j'avais pas encore le prénom de mon fils. Et donc, j'ai écrit une lettre à poignée de porte pour lui raconter sa grand-mère. Donc, mon fils aujourd'hui, alors, pas officiellement, mais il s'appelle poignée de porte. Et je viens d'en avoir un deuxième qui s'appelle bonnet de bain aussi. En hommage à ma grand-mère. Voilà, donc j'ai 2 garçons, poignée de porte et bonnet de bain Goldberger.
Eh bien, en entendant la fille pantoufle, hein, on a déjà un petit inventaire du mobilier qu'il peut y avoir chez Sacha Goldberger. Allez, alors, je continue de brasser le jeu et vous me dites si vous êtes prêt pour la 2e carte.
Je suis prêt.
Alors, on y va. La qualité que vous appréciez chez les autres?
La générosité, je crois.
Oui.
Je crois que c'est une valeur... C'est une valeur qui est nécessaire et obligatoire. C'est-à-dire qu'avec des gens généreux, on peut tout faire.
Oui. Et vous l'avez senti, cette générosité, dans les artistes que vous avez pris en photo, dans ces portraits?
La plupart. Pour la plupart. Après, les artistes, vous savez, je fais partie de ça. C'est des gens très fragiles, donc il faut tomber au bon moment. Mais pour la plupart, moi, je les ai trouvés très très riches, très enrichissants, et tous très différents. Voilà, je pense qu'il y a une différence chez les artistes qu'on a photographiés, qui est aussi grande que celle que les portraits qu'on a faits. C'est-à-dire qu'ils étaient tous très différents, mais quand même très généreux, oui.
Allez, on va tirer une dernière carte. Vous me dites quand vous êtes prêt.
Je suis prêt.
Allez. Le super pouvoir que vous auriez bien aimé avoir, puisqu'on parlait de super-héros tout à l'heure avec cette série Super Flemish et puis votre grand-mère en super-héroïne comics. Est-ce qu'un super pouvoir?
Je pense que j'adorerais pouvoir redonner la vie à ma grand-mère. Voilà, c'est un pouvoir qui n'existe pas, qu'il faut que je travaille. Mais si j'avais pu avoir un super pouvoir, ce serait celui-là de de l'avoir pu la garder encore un peu plus longtemps.
Voilà. Mais déjà, de l'avoir toujours en vous, hein, dans votre cœur, dans votre tête, c'est déjà un super pouvoir. Et c'est comme ça qu'elle ne mourra pas, si je puis dire. Et puis grâce à vos photos aussi, ces photos formidables de Mamika qu'on peut également retrouver. Merci d'avoir répondu à ces questions. On va refermer la petite boîte et on la réouvrira demain pour notre prochain invité. On se retrouve dans quelques instants pour terminer ensemble cette émission.
Doudou avec Vincent Belletti.
Mais déjà depuis quelques jours, je la regardais beaucoup pour qu'elle soit dans ma tête. Donc j'avais quand même très présent à l'esprit ses yeux très expressifs, cette bouche un peu molle. Ce mélange entre les photos de l'époque qui étaient faites pour la promotion, elle était impeccable, assez fière et tout, assez digne. Et puis le rôle quand elle le jouait, où c'était peut-être moins brillant, enfin, avec de la souffrance. Bon, ça reste un divertissement parce que c'est drôle de se mettre dans la roue d'un personnage. Mais c'est un personnage qui me touche, voilà.
Je suis restée dans un bar pendant une heure à regarder une double vodka et à penser à Jamie, à toi et à notre vie.
Mais tu ne l'as pas bu.
Non, parce qu'en définitive, tu n'en vaux pas la peine.
Dallas, ton univers impitoyable avec Armel, vous l'avez reconnu, l'une des comédiennes piliers de la série Caméra Café, ici métamorphosée en Sue Ellen, ce personnage, on va dire, légèrement alcoolisé de la célèbre série américaine. On pourra aussi retrouver Guillaume de Tonquédec en JR malicieux, beaucoup plus sympathique que l'original hein, dans ses portraits croisés. Est-ce qu'il y a vraiment, je sais pas, un artiste que vous rêveriez d'avoir dans ses portraits croisés, Sacha Goldberger?
Que je rêverais d'avoir, écoutez, il y en a beaucoup hein, que j'aimerais avoir. Ouais. Je rêvais d'avoir Joey Starr et ouais. Quelle joie de le prendre en photo. Mmh. Je sais pas, j'adorerais avoir Vanessa Paradis, Catherine Deneuve. C'est des gens qui pour qui j'ai une immense passion. Peut-être Roswell. Si jamais il était sur Terre à ce moment-là, j'aimerais bien faire un portrait croisé de lui. Ouais. On peut le trouver en ce moment si vous allez à la Gacilly. Vous verrez,
Y a cette fameuse série que vous avez, Alien, je ne me rappelle plus, c'était Alien Love, je crois.
Ça s'appelle Alien Love, qui est visible aujourd'hui. En fait, il y a un très joli festival de la Gacilly en plein air qui est gratuit et vous pouvez voir plein de photographes. Il y a 20 photographes pour leurs 20 ans. Et ils ont eu la gentillesse d'exposer deux de mes séries qui parlent de Roswell. Donc, moi, j'ai réussi à le capturer quand il attaquait la Terre avec des ustensiles de cuisine. Mais si j'avais un choix, j'aimerais bien essayer de, si jamais il revient sur Terre, je vais lui envoyer un message. J'aimerais bien faire un portrait de lui. Peut-être en terrien.
Ouais. Au fond, pour terminer, qu'est-ce qui vous rend heureux, justement, dans ce métier de photographe aujourd'hui? Goldberger.
Je crois qu'on en revient au début de notre émission, c'est de raconter des histoires. Moi, c'est ça qui me fait rêver, c'est de rencontrer des gens et de raconter des histoires. Et si vous regardez un peu mon travail, enfin tout au long de ma carrière, qui est assez courte, vous verrez que chaque série est une histoire différente et un projet différent, et que rien ne se ressemble. Et qu'en même temps, il y a un point commun, c'est que dans chaque série, il y a une nouvelle histoire. Je suis en train de faire un projet génial qui s'appelle What if Hitchcock had been a feminist, ce qui veut dire en français si Hitchcock avait été féministe. Ouais. Et avec cette même équipe, on a revisité 56 des films de Hitchcock, mais avec une vision féministe. Et c'est un questionnement sur le féminisme. Vous voyez, chaque projet, en fait, c'est ça, c'est se questionner et c'est s'amuser, mais en même temps, c'est raconter des histoires.
Portrait croisé, si vous avez raté l'exposition à Nice, vous pourrez la découvrir dans cet album avec pour certains de ses portraits des anecdotes sur le personnage représenté, des extraits de dialogues de films, une recette de la poule au pot 2.0 du musicien Mathieu Malzieu, encore cette fausse lettre de Raspoutine écrite par Jean-Paul Rouve qui incarne ce moine diabolique. Et puis vous aussi en hot dog, hein, vous êtes aussi présent en hot dog, c'est assez surprenant. Merci Sacha de nous avoir dressé tous ces portraits, merci aussi à Pierre Samanos qui aurait pu incarner Han Solo ou Luke Skywalker, avec Hugo Clément aux commandes de la régie technique. Demain, pionnière, elle aussi, de la littérature feel good au féminin qu'on aura le plaisir de recevoir, à savoir Jeannine Boissard, une écrivaine toujours active depuis ses débuts dans les années 80, puisqu'elle vient de sortir Elle parlait aux fleurs, son dernier roman paru chez Fayard. On reviendra sur le parcours de celle qui a ouvert le passage aux Virginie Grimaldi et Agnès Ledig d'aujourd'hui. On va se quitter avec un dernier titre rapidement, James Taylor, Fire and Rain, une explication à ce choix pendant que le titre tourne.
Écoutez, c'est un morceau tendre et sympathique. Et je pense que c'était une bonne façon de terminer cette émission qui était vraiment chouette.
Merci. Eh bien, merci Sacha. Entre feu et pluie, on vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de soirée à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame. Just yesterday morning, they let me know you were gone.
Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you. You look down upon me, Jesus. You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand.